À suivre la fabrique de l'histoire avec Emmanuel Laurentin. Mais d'abord le point sur l'information avec vous, Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Une page se tourne au Mexique. Pour la première fois depuis un peu plus d'un siècle, c'est un président de gauche qui vient d'être élu. Andrés Manuel López Obrador, surnommé AMLO, ce sont ses initiales. Il a recueilli hier entre 53 et 53,8% selon de premières estimations officielles à la présidentielle. AMLO, 64 ans, devance le jeune conservateur Ricardo Anaya avec près de 22% des voix et José Antonio Meade du Parti Révolutionnaire Institutionnel, le parti au pouvoir qui n'a enregistré lui que 16% des voix. AMLO, vétéran de la politique mexicaine, a fait campagne sur la lutte contre la criminalité et la corruption, sur le rejet également des gouvernements sortants de droite. Une victoire historique de la gauche, suivie à Mexico par notre envoyé spécial Olivier Poujade.
La fin d'un monde, celui d'un système corrompu, manipulé par Enrique Peña Nieto et le parti historique de la droite mexicaine.
Le narco-gouvernement, le PRI et le narcotrafiquant, c'est fini.
Plus de 50% des voix pour Obrador, mais également un vote sanction contre le clientélisme.
C'est la preuve que les Mexicains ne supportent plus le cynisme de tous ces politiciens. La vérité, c'est que le Mexique est pire que le Venezuela.
Les adversaires d'Obrador ont tenté de le comparer aux autres dirigeants d'Amérique latine, à une gauche autoritaire. Annabelle dit, elle, qu'il a fait ses preuves lorsqu'il était maire de Mexico.
Tous les autres l'ont copié. Ils le traitaient de populiste, mais ils ont tous imité sa façon d'aider les plus pauvres.
Les électeurs d'Andrés Manuel López Obrador veulent y croire. Dès ses premiers mots, leur nouveau président les rassure.
La transformation
que nous allons accomplir consistera à déterrer la corruption de notre pays. La corruption n'est pas un phénomène culturel. Mais le résultat d'un régime politique décadent. Restaurer l'état de droit au Mexique, remettre cette société sur pied, le projet d'un nouveau leader qui affirme vouloir marquer l'histoire de son pays.
Olivier Poujade à Mexico pour France Culture, moyen technique assuré par Gilles Gallinaro. Plus de 200 000 personnes ont été tuées au Mexique depuis 2006, année où le gouvernement de Felipe Calderón a déployé l'armée dans les rues pour démanteler les cartels de drogue. 145 assassinats politiques pendant cette campagne présidentielle de rien qu'hier. Un week-end sanglant, mais cette fois au Nicaragua, deux personnes ont été tuées et 11 autres blessées lors d'une manifestation pacifique à Managua, la capitale. Depuis mi-avril, le Nicaragua est secoué par une vague de contestation qui vise le gouvernement et la présidence de Daniel Ortega, sandiniste à la dérive. L'opposition est réprimée dans le sang. 285 morts, dont une vingtaine de mineurs. La Prensa, l'un des principaux journaux indépendants du Nicaragua, attribue les attaques de ce week-end à des tomateras, à des individus qui s'accaparent les terres. Un phénomène répandu dans tout le pays à l'initiative même du président Daniel Ortega, comme l'explique Gonzalo Carrion du Centre nicaraguayen des droits de l'homme.
Comme il a perdu le soutien du peuple, Daniel Ortega est en train d'organiser des prises de possession de terrain, des propriétaires en milieu urbain et rural pour chercher l'appui des plus pauvres. Il offre aux gens un lopin de terre. En échange, ils doivent fournir des hommes, des jeunes pour attaquer les manifestants. Par exemple, samedi, ils ont pris possession d'une propriété appartenant aux Cohen, une famille milliardaire du Nicaragua. Pourquoi ? Parce que cette propriété se situe à quelques mètres de l'arrivée de la manifestation. Depuis cette maison, des groupes armés de fusils de guerre, des paramilitaires ont attaqué des manifestants au moment où ils terminaient la marche. Donc en fait, depuis ce lieu qu'ils se sont appropriés illégalement, des groupes armés soutenus par la police, le gouvernement et l'armée nicaraguayenne ont attaqué des manifestants et le résultat fut mortel.
Gonzalo Carrion du Centre des droits de l'homme au Nicaragua, joint par Maïwenn Bordron. La coalition au pouvoir à Berlin va-t-elle rester en place? Nous le saurons dans les heures à venir car la crise politique en Allemagne joue les prolongations sur la question migratoire après le sommet européen de la fin de semaine dernière. Entre d'un côté les Bavarois de la CSU, très conservatrice, et leur président Horst Seehofer, également ministre de l'Intérieur, et de l'autre côté la CDU d'Angela Merkel. Entre les deux, la question du renvoi des migrants actuellement en Allemagne, mais enregistrée au préalable immeubles dans un autre pays européen à leur arrivée dans l'Union. Le ministre de l'Intérieur allemand veut les expulser. Angela Merkel refuse et l'avenir de la coalition est de nouveau en question. Discussion au sommet dans la journée. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, reconnaît ce matin qu'il y a peut-être eu une défaillance au centre pénitentiaire de Réau, en Seine-et-Marne, centre d'où s'est évadé spectaculairement par hélicoptère le braqueur récidiviste Redouane Faïd. En fin de matinée, hier, un hélicoptère avec un commando armé de 3 complices, dont le pilote avait été pris en otage, s'est posé dans la cour d'honneur de la prison pour faire évader Redouane Faïd. Quelques 2900 policiers et gendarmes sont mobilisés depuis hier partout en France pour tenter de rattraper celui qui s'était déjà évadé il y a 5 ans de sa prison de Lille-Séquedin. Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, est attendu à Matignon aujourd'hui où une rencontre avec le Premier ministre est prévue, contrairement à Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse, qui, il y a une semaine, a annoncé qu'il ne se rendrait pas à Matignon, estimant ne pas vouloir approuver la politique du mépris du gouvernement. Gilles Simeoni précise dans un communiqué qu'à travers sa fonction, sa mission est de représenter tous les Corses. Mais à vrai dire, Cyril Graziani, à quoi lui sert de monter à Paris ?
Gilles Simeoni ne veut pas pratiquer la politique de la chaise vide, même s'il sait par avance que les réponses que Matignon va lui apporter ne vont pas le satisfaire. Plutôt que la technique Talamoni de boycotter ce rendez-vous, lui privilégie le dialogue et préfère aller les yeux dans les yeux dire au Premier ministre que l'État commet une faute grave. C'est vrai que ce rendez-vous n'est pas destiné à faire bouger les lignes, l'exécutif n'a pas l'intention de changer d'un iota l'article qui inscrira la Corse dans la Constitution, ni même d'accéder aux revendications nationalistes considérées par Paris comme identitaire. Gilles Simeoni, lui, continue de clamer que les Corses l'ont élu pour donner à l'île plus d'autonomie. Le risque pour lui maintenant, c'est que ses électeurs, déçus de voir l'échec des négociations, se désolidarisent et se tournent vers l'indépendantiste Talamoni. En attendant, d'autres font les yeux doux à Gilles Simeoni. Benoît Hamon, qui apprécie le président de la collectivité de Corse, l'a même convié ce week-end à la convention de son mouvement. Pour des questions d'agenda, notamment le rendez-vous parisien du jour, l'élu corse a décliné.
Le temps de ce lundi 2 juillet, orageux à l'ouest avec 7 départements placés en vigilance orange. Un temps très chaud à l'est avec le Rhône, placé lui en alerte canicule. Les températures sont comprises ce matin entre 15 et 20 degrés. Cet après-midi, comptez de 24 à 29 à l'ouest du pays. 30 à 34 degrés en général sur la moitié est. 25 à 29 près de la Méditerranée. C'est la fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Stanislas Vazak.